Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International. Radio Foot International qui suit la Ligue des Champions et c'était la deuxième demi-finale. Le Real Madrid, en finale de la Ligue des Champions, il retrouvera le Borussia Dortmund. Un match intense, tendu, et puis qui s'est emballé. Score final 2-1 et doublé de Rossellou, l'improbable remplaçant numéro 9 des Merengues. Les Bavarois, qualifiés durant 20 minutes, étaient dépités. On les comprend, on va en parler. On va parler surtout de cette 18e finale pour le Real Madrid. Real BVB, n'est-ce pas, Rémy Ngono? Bonsoir.
Bonsoir Annie, et comme je vous ai dit en début d'émission, le Real allait encaisser le premier but. Mais que le Real allait renverser la situation. Allez, j'avais déjà aussi dit ça à tous mes enfants, je leur ai dit.
C'est vrai que vous aviez écrit le scénario. Voilà. Il faudra que vous nous disiez ce que fera Marseille demain, alors, parce que je ne sais pas si vous aviez le bon scénario hier.
Voilà.
Les jaunes et noirs du Borussia Dortmund en finale hier soir, une deuxième victoire sur le PSG qui les a propulsés à Wembley, alors que les Parisiens ressassent leurs limites et que Kylian Mbappé a tout du coupable idéal. Techniquement, Edin Terzic a remporté sa bataille sur Luis Enrique. Et on a donc un club allemand en finale. Bonsoir David Lortolari.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Improbable et improbable.
Les deux. Dans les deux sens. Et c'est ce dont on va parler. Et puis cette flamme olympique, symbole des JO de Paris 2024, a débarqué sur le sol français par le port de Marseille, la deuxième ville de France, où demain 188 relayeurs de cette flamme, parmi lesquels de nombreux footballeurs traverseront la ville. Nous écouterons Basile Boli. Radio Foot préparé avec David Finzel et Mathieu De Gueldre. Radio Foot, c'est parti.
Avec du temps, avec de l'espace, avec de la place, Alphonso Davies sur le pied droit. Énorme but d'Alphonso Davies. Le Bayern fait dans le réalisme. À gauche, Vinicius, bien servi, Vinicius, frappe de Vinicius, Wanaier qui relève. Le Real tient sa révolte à la 87e minute. Nacho avec Rudiger, le sort. Oh là 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 là. C'est toujours revu. Oh, le but est validé.
Il est extraordinaire. Cette équipe est folle.
C'est historique ! Ce Real est fou !
Et oui, ce Real est fou. Et à la fin, c'est le Real qui gagne. Quelle incroyable sensation et surtout retournement de situation dans ce stade de Santiago Bernabéu qui était de blanc de pied en cap, hein, du premier au dernier étage, là-haut, tout en haut. Une ambiance surchauffée lorsque le match s'est enfin emballé parce que le premier but est survenu à la 68e minute. C'est le Bayern qui a ouvert le score. Et ensuite, il y a eu ce doublé dans le temps réglementaire, mais il y a eu 14 minutes de temps additionnel, Rémy. Ça a dû vous paraître long.
Ça m'a paru long, mais en même temps également, peut-être que...
Ils ont pu égaliser.
Mais le Real, lui, il a égalisé au temps qui était imparti. Mais cette fois-ci, c'est l'arbitre qui a plutôt fait la prolongation après les 9 minutes. Parce qu'il y avait les 9 minutes de temps d'arrêt.
C'est 88e et 91e
voilà,
minute.
Donc, or, le match devait aller jusqu'à la 99e minute. Mais le Real, c'est le même scénario. C'est-à-dire que la première erreur, il ne faut pas jouer le Real le mardi ou le mercredi. Deuxième erreur, il ne faut jamais marquer le premier but contre le Real en Ligue des Champions.
C'est un futur joueur du Real qui a marqué.
Et puis, troisième erreur, il ne faut pas venir espérer battre le Real justement au Bernabeu, parce que lorsque vous essayez de regarder
pourtant,
cette fois-ci-là...
Pourtant, pendant 20 minutes, on s'est bien demandé ce qui allait se passer avec pour cette
regardez,
équipe réminente.
C'est le même scénario. Cette saison, c'est 23 matchs, 19 victoires, 4 nuls.
Et donc, invaincu en Ligue des Champions.
Invaincu en Ligue des Champions. Donc, j'étais serein. Je savais que, comme d'habitude, nous, on fait toujours comme le film chinois. C'est-à-dire que quand vous croyez que l'acteur est mort, il se relève, il sort directement quelque part et boum, il abat l'ennemi. Donc c'est comme ça le Real Madrid, c'est comme ça la Maison Blanche, c'est comme ça cette forteresse imprenable.
David Lortolari, c'est vrai qu'on a eu un match intense. Ils ont mis du temps, ils se sont étudiés longtemps toute la première mi-temps. On était à 0-0, 68e minute, ça vient longtemps. Et on a vu notamment des parades absolument extraordinaires de Manuel Neuer.
Oui, en vous rejoignant à la pause, je me disais on va avoir une thématique sur les gardiens de but parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça peut être aussi vraiment décisif sur des arrêts de la classe supérieure, quoi, des arrêts improbables. Looney n'est pas du tout maladroit d'ailleurs dans cet exercice. Au départ, c'est le troisième gardien pour le Real Madrid. Lui aussi fait quand même de très belles
et
choses.
Et il est maintenu, hein, même si Thibaut Courtois, on l'a vu courir à la fin du match. Il est de retour, mais il est de retour en championnat où le titre est acquis et parce qu'il a, il manque de forme physique, on va dire.
Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi Rémi a raison de parler de presque de fiction, c'est-à-dire c'est une histoire. C'est une histoire qui s'emballe d'un seul coup. Et surtout les angles morts. C'est-à-dire, on voit un super Neuer et puis ça vient de lui, la renaissance du Real.
Oui,
on
parce que racontons-le, cette égalisation du Real Madrid.
Il y a une frappe avec un rebond plutôt anodine, cadré, mais Neuer la voit venir. Il est un peu sur ses appuis arrière, donc on a l'impression... Normalement, un gardien de but doit être sur ses appuis vers l'avant pour venir chercher le ballon, le mettre dans sa niche, sur sa poitrine. Là, c'est ce qu'il fait, mais il est légèrement en arrière. Le ballon rebondit
sur sa poitrine.
Et le grand crédit qu'il faut donner au buteur derrière, c'est qu'il a senti que quelque chose pouvait arriver. Le petit pourcentage et le joueur du Real vient égaliser. Et derrière, il y a forcément cette dynamique pour le Real. Mais c'était déjà improbable bien avant dans le match, Annie, puisque Alphonso Davies... qui est arrivé au Bayern comme ailier gauche, qui n'a jamais quasiment joué ailier gauche parce qu'il est habituellement arrière gauche. Et est entré dans le cours du match, Thomas Tuchel lui a fait confiance comme ailier. Il est un pur gaucher, Alphonso Davies. Il marque un formidable but du droit. Donc déjà, vous vous dites, le match
oui,
bascule
dans quelque
chose.
Il arrive
sur le
côté droit, d'ailleurs.
Il arrive, voilà. Il entre dans la surface, super but, mais... Derrière, vous vous dites « Ah tiens, il y a quelque chose de spécial. Peut-être que le Bayern est immunisé ce soir. Peut-être qu'avec les arrêts de Neuer plus ce but incroyable, on va avoir quelque chose d'implacable et le Real va peut-être enfin céder. » Et puis derrière, irrationnel.
Ouais. Rémi, on a vu ce soir Vinicius tenter énormément de choses, manquer aussi des choses, mais il fait une des passes décisives sur un des deux buts et il a été désigné homme du match.
Il faut savoir que depuis l'édition 2021-2022, Vinicius est l'homme le plus décisif de la Ligue des Champions, toutes les équipes confondues. C'est-à-dire qu'il est impliqué sur... Déjà, il a marqué 16 buts et il est sur 16 passes décisives. Et là, lorsque vous regardez le nombre de dribbles qu'il a réussi, d'ailleurs, il a empêché Kimmich de faire la moindre montée. Et il y avait des prises à 3. Ça fait de telle sorte que ça déséquilibre l'axe du Bayern. Donc, Vinicius, lui seul, était déjà un véritable poison. Et il faut se dire que Neuer a dû se plier à un exercice formidable devant Vinicius. Donc, pour moi, il était vraiment l'homme qu'il fallait. Et c'est le Vinicius qu'on attendait, contrairement à Mbappé qui a manqué son match d'hier. Mais là, lui, il a été un véritable poison parce qu'il était totalement inarrêtable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que... Vous voyez, on parle de cette balle qui est relâchée. Mais en fait, Ancelotti a constaté que Vinicius ne marquait que 5,7% des buts en dehors de la surface. Et lui, il a fait travailler Vinicius aux entraînements pour tirer toujours en dehors de la surface et surtout un rebond devant le gardien de but. Rosselou se retrouve là, pas par hasard. C'est parce que justement, il sait que toute balle qui peut... faire un rebond devant le gardien de but peut avoir un rebond. Donc David, c'est pour ça que justement, avec aussi l'arrosage de la pelouse, bon, bien évidemment, tout ça a été calculé. C'est pas le hasard. Le Real joue du football mathématique, logique, scientifique.
Oui, c'est certainement pas le hasard, mais il faut quand même une sacrée dose de foi. C'est le travail de l'attaquant, hein, c'est vrai, d'avoir ce sixième sens, peut-être un instinct.
Tu as vu ça avec Liverpool, tu as vu ça avec Manchester City. Tous les gardiens faisaient les mêmes erreurs.
Oui, oui.
C'est-à-dire que c'est pratiquement ça avec le Real. C'est-à-dire dans les dernières minutes, il vous manque de la concentration, il y a de la pression, et hop, les gars sont devant vous, vous surveillez qui est au deuxième angle, vous regardez celui qui est dans les 6 mètres, et vous ne pouvez même pas vous attendre à cet instant-là d'une frappe sèche et soudaine. Et bam, ça vous prend comme ça là, parce que vous n'étiez pas prêt, et hop, vous partez.
C'est la première fois depuis 12 ans, Annie, que le Bayern ne gagnera pas de titre sur une saison, et il fallait bien ce Real-là, capable de renaître dans les dernières minutes pour le faire tomber. Parce que mine de rien, on a une grosse écurie en face et il faut ce Real-là pour arriver à renverser une telle situation.
Et je te donne encore une autre statistique. C'est la 12e demi-finale de Tourelle. 11, il n'avait jamais perdu. Il a fallu le Real Madrid.
Oui, mais il a fait des choix courageux. Il a fait
donc,
des choix
vous
courageux.
Vous dites que avec le Real, on brise toujours les séries. Vous avez vu avec Manchester City, c'est-à-dire qu'on avait par exemple là Manchester City était sur 47 matchs sans défaite et puis le Real vient et il anéantit tout ça. C'est comme ça le Real Madrid. C'est une équipe qui a foi. C'est une équipe surtout aussi comme je vous ai dit la préparation foncière du Real Madrid, c'est que le money time, les dernières minutes, le Real finit toujours par vous prendre par la gorge, par vous pousser à la faute et par gagner. Ce n'est pas un hasard.
On a vu là, parce qu'on a les images en boucle de ces joueurs qui communient avec leur public. On a vu Carlo Ancelotti chanter le à la Madrid là, dans son complet trois pièces et absolument sa cravate parfait. Et puis on a vu évidemment tous les joueurs. Alors hier, on avait vu ceux du Borussia Dortmund avec ce maillot de vainqueur et marqué derrière London, hein, en route pour Londres, là où se trouve le stade de Wembley. Et là, en l'occurrence, eh bien, les joueurs du Real Madrid ont un maillot blanc et derrière, il y a marqué Porla Quincé, c'est-à-dire en route pour la 15e. Mais c'est leur 18e finale, David Lortolari. C'est vrai que c'est des statistiques fous pour ce club.
Oui, 18e finale.
Et 14 victoires.
Il y a une éternité du Real. Mais voilà, c'est ça surtout. C'est-à-dire que, parce que vous avez des clubs qui ont fait 5 finales, 2 victoires, ou 6 finales, 3 victoires. C'est un ratio à peu près normal. Vous arrivez, quand vous êtes en finale, vous avez un peu d'expérience, vous arrivez à en gagner une sur deux. Le Real, il y a cette culture dont on parle dans chaque émission, quasiment. Et puis, peut-être aussi, ce dont on parle peut-être un peu moins, c'est le Real a foi en lui-même, mais les adversaires savent que toujours, il peut y avoir un Real qui va à n'importe quel moment... C'est comme si vous vous présentiez face à plus grand que vous, systématiquement, qui que vous soyez. Et c'est ça qui nous épate, nous, les suiveurs, les observateurs, qui épate les supporters et qui épate les joueurs, peut-être aussi, même si c'est inconscient, peut-être, quelque part. Parce que là, vous avez quand même un adversaire qui fait un bon match à l'aller, même si ce n'est pas un match plein pendant une heure et demie, qui fait un bon match au retour, qui a résisté, qui a marqué un but d'avance, ça ne suffit pas. Ça n'a pas suffi.
Il faut dire déjà que si on regarde les 15 dernières éditions, le Real Madrid, pratiquement déjà, c'est 13 demi-finales.
Oui,
ce qui signifie que...
Et c'est 6 finales en 11 ans.
En 11 ans, 6 finales.
Oui, mais ça, c'est...
Donc, avec le Real Madrid...
Il y a une séquence au début des années 2000 où il passe 7 ou 8 années consécutives sans passer les 8e
de finale. Les fameux
galactiques. C'est lui qui les éliminait souvent même, hein, parfois.
Et puis, on retrouve... Le Real a quand même une surface, une puissance, un charisme peut-être aussi bien international qui lui permet de revenir aussi dans des conditions comme ça, avec aujourd'hui, on a l'impression, les bonnes personnes aux bons endroits. Un manager incomparable, les joueurs à leur bonne position, parce qu'Ancelotti l'a répété aussi, on l'a questionné dans les conférences de presse, sur la tactique, sur le profil de chaque joueur. Souvenez-vous quand même qu'on a encensé Benzema les saisons précédentes, il n'y a plus de Benzema et qu'aujourd'hui, on fait 100 et quasiment aussi
mais
bien.
Mais il y a un Français dont on ne parle pas beaucoup, et moi je crois qu'il a signé, et d'ailleurs, Didier Deschamps est obligé de l'appeler, Mendy. Il Ferland a Mendy. Totalement ouais, ouais. mangé et mis le roi Sané dans la poche.
Et c'est vrai
aucun dribble réussi de son côté, c'est-à-dire qu'on a beau changer, on a beau faire des permutations, même Moussiala a tenté la balle, lui-même il a vu que c'était un roc, que c'est un homme impassable.
Ferland Mendy, longtemps blessé, hein, on se demandait, parce qu'on pense par exemple à Nuno Mendes actuellement et il y a d'autres joueurs, on s'est beaucoup demandé s'il pourrait revenir dans le même état de forme et de puissance, et oui. Là on est en train de revoir toutes les parades de Manuel Neuer. C'est dur de savoir et d'imaginer qu'après des parades absolument extraordinaires qu'il arrive à faire pendant 68 minutes, à un moment, enfin jusqu'à la 88e, à un moment, il craque.
Ça me fait penser à deux choses. La première, et les Allemands, évidemment, y ont repensé avec amertume sur les réseaux sociaux dans les dernières minutes, là, depuis la fin du match, c'est Oliver Kahn qui avait fait un énorme mondial en 2002 et qui s'incline devant Ronaldo, le Ronaldo brésilien, en finale de la Coupe du Monde 2002. Donc évidemment, on repense un peu à cette amertume. C'était une finale, là c'est une demi. C'est un peu le mythe de Sisyphe, le gardien de but. C'est-à-dire, vous pouvez être parfait, excellent sur 89 minutes et puis faire une petite erreur. Et c'est fatal, nécessairement, parce qu'en face, vous avez des joueurs qui ont l'écrou, vous avez des joueurs qui ont encore une fois cet instinct. Et puis le gardien de but, c'est le dernier rempart. Et donc oui. il peut être excellent, on peut avoir l'impression qu'il est infranchissable, mais humainement, il y a une petite faille et le Real l'exploite.
Mais surtout Manuel Neuer, qui a lui aussi été longtemps blessé, qui a 38
une
ans.
Une année totale d'absence, Annie.
Champion du monde en 2014, qui revient. Et finalement, on imagine sa tristesse ce soir.
Oui, oui. Alors c'est une saison qui va se terminer avec un Euro en Allemagne, mi-juin, mi-juillet.
Oui.
Donc lui, il est installé dans l'équipe nationale. C'est peut-être une raison pour lui aussi de faire une excellente... Alors fin non, parce qu'il aura encore une saison à jouer derrière, soi-disant. On verra si le contrat est confirmé. Mais il a l'occasion de briller encore d'ici l'été. On va le revoir.
Une première réaction grâce à nos confrères de Canal+, c'est celle, justement, on en parlait, d'un des Français de l'effectif du Real Madrid. Et c'est Ferland Mendy.
Encore une fois, c'est vrai. Après, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on a tout donné. On a essayé de mettre un but directement et on a remarqué derrière. Donc, c'est dans la tête, je trouve qu'on est très soudés. Et après, on essaie de jouer ensemble, de se donner ensemble à fond. Et au final, ça paye. Après, j'entends beaucoup que c'est de la chance, mais autant de fois, je ne pense pas que ça soit autant de chance que ça.
Eh oui, c'est ce qu'on avait dit, hein, Rémi, il n'y a pas que de la chance. Rémi, alors, il nous reste quelques secondes encore. On a une finale, et là, le Real Madrid est à la recherche. Avec Carlo Ancelotti, en 2013, en 2012, il recherchait la décima.
Oh, oui.
Là, c'est la décima quinta. On est à la 15e face au Borussia Dortmund. Vous l'avez vu hier, ils sont dangereux.
Ils sont dangereux, mais il faut savoir que rien que Carlo Ancelotti, ça fait déjà quand même aussi 15 Ligues des Champions qu'il a remportées. Donc, qui sait
15
5 Ligues des Champions qu'il a remportées. Donc, ça fait 24 trophées en tant que sélectionneur et puis en tant qu'entraîneur. Parce qu'en tant que joueur, il a... Non, 28 d'ailleurs. Hein, parce qu'en tant que joueur, il a remporté 14 trophées. Donc, Carlo Ancelotti s'est joué. C'est vrai qu'on a regardé. Le Borussia Dortmund, mais ce Borussia Dortmund, il est beaucoup dangereux sur les côtés. Or, nous également, sur les côtés, on a des gens qui peuvent être très, très dangereux, Rodrigo et puis Vinicius. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de passer comme ils faisaient avec le Paris Saint-Germain. Moi, je suis confiant quant à cette finale-là.
David, il y aura un match.
Oui, il y aura match parce qu'il y a des histoires individuelles.
Bellingham, hein, qui était l'année dernière encore avec Dortmund et qui se retrouve en finale de Ligue des Champions face à Dortmund.
Au premier lieu, il y a effectivement des étiquettes très larges collées dans le dos de chacun. Un Real favori pour son palmarès parce qu'il est censément plus fort et meilleur. Un Dortmund qui va peut-être pas être mécontent de pouvoir se dire on est les petits, on va essayer de surprendre. Puis des histoires individuelles. Sancho en Angleterre chez lui, Marco Reus qui termine sa carrière
Wembley,
avec Dortmund
à Londres.
Dans un match comme ça, qui pourrait enfin gagner quelque chose de grand. Donc il va y avoir peut-être des joueurs aussi transcendés. On pense à d'autres histoires peut-être. Le jeune Bino Gittens anglais, Rémi parlait des joueurs très performants sur les côtés qui peut nous faire des choses aussi. J'attends cette finale avec appétit.
Je pense qu'on l'attend tous. Et ça sera le 1er juin prochain, le samedi 1er juin, donc dans une grosse quinzaine de jours. On continue dans Radio Foot International. On va revenir sur le match un peu dingue qui a eu lieu hier soir au Parc des Princes.
Non, je pense que le PSG va passer.
Dortmund, mais c'est qui? On les a giflés en poule.
Même pas qu'on fait pour la CAF, mais qu'on le pourra la finale.
Hey, le Bayern ou le Real en finale, y'a rien. Sur un match, tout peut se passer, vous savez très bien.
Pour le joueur allemand, deuxième poteau, oh, le but du Borussia, il était tout seul, encore SM Redchan, qui vient toucher les espoirs du PSG, mais comment il a pu se retrouver encore tout seul au deuxième poteau?
Beaucoup de bruit pour si peu, et oui.
C'est pas qu'elles se dégonflent, c'est qu'elles font pchit.
Et oui, ces soirées européennes qui font pchit au Paris Saint-Germain. Merci, et au Parc des Princes. Je suis désolée Dominique, mais c'était tentant quand même. Et puis hein, après, il n'y a pas mort d'homme. Hein. On peut aussi en rire parfois.
Bien sûr, évidemment. Alors, on en rit souvent.
C'est fait pour ça le PSG d'ailleurs.
Comment Hummels, hein, non pas Emre Can, oui, vous l'aviez dit hier. Ben, oui. Non, je sais Cédric, vous l'aviez déjà dit hier. Et je sais.
C'est mes yeux qui m'ont trahi, ils avaient le même gabarit.
Hummels, c'est la deuxième fois qu'il nous fait le coup. On devrait l'avoir à l'œil quand même, Dominique.
À 10 ans d'écart.
Et c'était
Avec Varane.
France-Allemagne.
France, la Coupe du Monde.
Au Brésil. Ouais, c'est
sûr.
Ça que je voulais vous disiez, le mot magique. Au Brésil, bien sûr.
Mais là, il y avait quelqu'un au marquage sur lui, au moins. Mais même s'il avait été dominé, Varane, là, il n'y avait personne. Il était tout seul.
Et ce fut donc une victoire claire et nette pour le Borussia Dortmund, premier finaliste donc de cette Ligue des Champions 2024. Une qualification, on le disait tout à l'heure, qu'on aurait eu sûrement du mal à imaginer quand il y a eu les tirages au sort des poules au tout début de cette au mois de décembre dernier. L'équipe, on l'a vu, a grandi tout au long de ces derniers mois. Alors, on lui moque un peu, on entendait ça à un moment, notamment au moment de la phase éliminatoire, quand on a vu que certaines équipes étaient du côté du Borussia notamment, tableau, c'était pas non plus l'épouvantail. On lui moque sa cinquième place de Bundesliga seulement. Mais Marco Reus, lui, il n'en revient encore pas. L'attaquant qui était déjà en finale en 2013, c'était face alors au Bayern, une finale 100% allemande, on s'en souvient tous. Et c'était quand le BVB était alors entraîné. N'est pas Jürgen Klopp.
C'est indescriptible, c'est une semaine incroyable pour moi, un dénouement exceptionnel alors que mon histoire avec le club se termine. Et elle se termine par une qualification en finale de Ligue des Champions comme en 2013. C'est là que tout avait commencé. Alors être de nouveau en finale avec le Borussia Dortmund 10 ans après, c'est formidable. Je félicite mes coéquipiers. On a beaucoup souffert, c'est dingue d'avoir réussi à passer. Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi ont mis beaucoup de rythme sur le côté droit, mais on s'en est sorti. Personne ne nous demandera comment on a fait. Ce qui compte, c'est qu'on verra le nom du Borussia Dortmund affiché à Wembley. On a toujours répondu présent en Ligue des Champions. On a retrouvé notre niveau, on a beaucoup subi, on a eu un peu de chance, mais on est là et c'est de la folie.
Ibrahima, Marco Reus, symbole de finalement la longévité de cette équipe du Borussia Dortmund. Lui, toujours là, au top, malgré les blessures, malgré des hauts et bas finalement dans cette équipe des jaunes et noirs.
Oui, mais de l'inconstance, symbole de l'inconstance du BVB, parce que ça fait quand même, on l'a dit, 11 années d'affilée que le Bayern est champion. L'année, ils auraient dû être champions, c'était l'année dernière. On se souvient du scénario de cette dernière journée improbable où ils ne sont pas champions. Et Marco Reus, c'est un joueur.
On disait que c'est pour ça qu'il ne s'en était pas remis dans le championnat.
Bon, j'y crois pas forcément. Non. Je pense que c'est juste dû au fait qu'il y a un Bayern Leverkusen qui est beaucoup trop fort cette saison. Mais c'est vrai, Marco Reus, de son passage, c'est le joueur emblématique de ce club. C'est vraiment une légende là-bas. C'est un joueur exceptionnel, faut le dire. Un très, très, très bon joueur de foot. Mais qui a souvent été blessé, qui a souvent pas été
manqué
là.
Manqué les rendez-vous internationaux aussi.
Et avec l'équipe d'Allemagne aussi. Donc, c'est qu'une seule Coupe d'Allemagne remportée avec le BVB. Donc, finir comme ça, sur une finale à Wembley qui peut-être sera le remake de ce qui s'est passé en 2013 dans le même stade, ça peut être que exceptionnel et ça pourrait être la meilleure fin possible pour lui en partant en gagnant cette Ligue des Champions.
On peut être un peu surpris quand on entend Dortmund en finale, mais c'était pas forcément le meilleur. Enfin, il y a des critiques comme ça.
Il y a deux ans, il y avait quand même deux joueurs qui font le succès d'autres clubs.
Erling Haaland et Jude Bellingham, quand même, mm-hmm. qui étaient ensemble à mm-hmm. Dortmund. Vous voyez
non, il y a... puis il y a eu des grands
et,
joueurs.
Oui, d'accord, mais il y a ouais. encore deux ans. C'est-à-dire qu'il y a encore une saison. Et,
oui, eux aussi, ils ont perdu
et donc
des joueurs.
C'est sans eux qu'ils, mm-hmm. qu'ils vont en finale. Ça, reconnaissez que c'est un petit peu étonnant.
On en a vu d'autres, Adeyemi, Sancho.
Si je vous dis au début de saison que Kobel, le gardien, et Fulcruc, l'attaquant, vont aller en Ligue des Champions et en finale et pas, je sais pas moi, Donnarumma et Mbappé, ou Haaland et Ederson, c'est quand même un peu surprenant. Il faut le reconnaître. Je dis pas qu'ils ont volé leur place.
Pas ces dernières heures.
Non, mais en tout cas, c'est pas d'évaluer leur qualification que de dire que c'est étonnant par rapport à ce qu'ils ont, en tout cas par rapport au début de saison. Après, voilà, ils ont eu aussi des circonstances, le tableau, le PSV Eindhoven, l'Atlético de Madrid. Et je pense que si Paris était content d'affronter Dortmund, Dortmund devait être content d'affronter Paris plutôt que le Real ou le Bayern. Et après, ils ont réussi à, bravo à eux, ils ont réussi à faire ce qu'il fallait, en tout cas sur cette double confrontation.
Ils sont meilleurs, hein, non, mais sur les matchs.
Il faut leur donner beaucoup de crédit.
C'était le match parfait quand même à la comme en retour de victoire, zéro but encaissé.
C'est ça en fait l'exploit. En fait, la perf, c'est qu'ils prennent zéro but sur deux matchs, alors qu'il y a un ou deux week-ends, ils en ont pris quatre contre Leipzig. Ouais. Après, bon, du côté français, pour dire les choses, on les a pris un peu de haut parce que le seul adversaire du PSG, c'était le PSG selon certains. Je rappelle quand même au passage que le championnat d'Allemagne est bien supérieur au championnat de France. Ils peuvent placer trois clubs sur quatre. Sur les finales européennes. Et je rappelle au passage qu'on parlait du Real tout à l'heure, quand ils ont joué Leipzig, c'était tout sauf une sinécure en huitième de finale. Le Real a galéré contre une autre équipe de Bundesliga.
Avec un buteur refusé, donc, qui était
voilà, ce qui veut dire, en gros, que c'est une très bonne équipe. C'est une équipe bien pensée et qui résiste à des départs majeurs, allant des Bellingham. Il y a beaucoup d'équipes qui ne s'en remettraient pas. Hein. Toutes les saisons, il y a une...
Le Bayern qui leur achète des joueurs, mais pas seulement.
Mais là, quand on reprend un peu leur équipe, en fait, c'est le parfait amalgame. Ils doivent avoir un bon état d'esprit. Le groupe doit bien vivre. Mais en fait, tu as des jeunes à fort potentiel et tu as des cadres avec de l'expérience et des joueurs chevronnés. Et surtout avec un QI foot très supérieur à la moyenne. Emre Can, Sabitzer.
Très PSG, en tout cas.
Et moi, celui qui m'a... En tout cas, je sais pas, Ibrahima, toi qui suis mieux que moi la Bundesliga. Honnêtement, je le connaissais, mais je pensais pas qu'il était aussi bon que ça. C'est leur centrale. Alors, tout le monde parle de
Hummels. Schlotterbeck.
Schlotterbeck, là, le gaucher, là. Mais tu me prends Schlotterbeck, tu prends Beraldo. Je veux pas tirer sur l'ambulance parce que Beraldo, il vient d'arriver.
Deux fois.
Beraldo vient d'arriver, il est jeune et peut-être que dans 2-3 ans, ça sera un autre joueur. Mais Schlotterbeck, hier, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Comme Rudiger du côté de
l'Allée, c'est lui qui a fait la longue transversale pour Fulcrug.
Je trouve que c'est un joueur exceptionnel.
Dans le dos de la défense avec l'alignement de Marquinhos.
Donc,
c'est tout à fait mérité. Après. Moi, mon tropisme, Annie, me fait dire quand même que c'est Paris qui est passé à côté complètement de ces deux matchs. Même si, encore une fois, la victoire du Dortmund était incontestable, les matchs à la régulière, il n'y a pas de pénalty ou d'histoire d'arbitrage, il y a des faits de jeu.
PSG a été coiffé sur le poteau, quoi.
Sur les six poteaux.
Justement, parlons-en du PSG, parlons des poteaux. Un ancien Marseillais, Joseph-Antoine Bell, a eu envie de nous parler de sa compassion pour les Parisiens et justement de leur manque de réussite.
Je pense d'abord que Paris mérite qu'on soit sévère, parce que Paris lui-même a été sévère et suffisant. Mais maintenant, au-delà de cela, parce que nous sommes déçus et dans la déception, on se retourne généralement contre son équipe, on ne peut pas ne pas plaindre les Parisiens. Ça s'appelle de la maladresse quand on est très rigoureux, mais ça s'appelle aussi de la malchance. Vous ne pouvez pas tirer six fois sur les poteaux en deux matchs en une semaine. Pour cela, Paris mérite d'être un petit peu plein. C'est comme si la foudre était tombée au même endroit deux fois en une semaine. Ça, c'est presque jamais arrivé.
C'est vrai qu'ils ont beaucoup tapé sur les poteaux qui n'étaient pas carrés. Hein. Paradis, c'est les pieds qui étaient carrés.
Ils
en
les
tout
ont
cas.
Carrés, les poteaux, plutôt. Mais...
oui, peut-être bien. Six fois sur les poteaux, Dominique, c'était deux fois à l'aller, quatre fois au retour. Est-ce que c'est une excuse ou est-ce que c'est juste une explication?
Non, pour moi, c'est ni une excuse ni une explication. C'est de la malchance, ça peut arriver. C'est pas ça. C'est surtout tout ce qui a manqué au Paris Saint-Germain. On va peut-être faire un focus sur Kylian Mbappé, mais il y a pas que Kylian Mbappé.
Oui, justement.
Il y a 6000 raisons. Il y a pourquoi le Randal Kolo Muani rentre au match aller, le seul changement choisi par Luis Enrique, puisqu'il y a eu un changement contraint. Lucas Hernandez s'est blessé. Pourquoi Ramos, qui a joué 5 minutes depuis les huitièmes de finale, les matchs à élimination directe, était titulaire la dernière fois qu'il a fait l'attaque avec Mbappé et Dembélé, c'était à Lorient. Lorient prépare pas Dortmund. voilà, pourquoi il y a plein de choses comme ça. Pourquoi Fabián Ruiz, alors qu'il a l'air moins bien, n'est pas remplacé par Marco Asensio ou un joueur un peu plus créatif?
Donc ça conduit à Luis Enrique et
par exemple,
critiques.
Pourquoi les joueurs stars comme Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sont passés complètement à côté du match aller et du match retour? Pourquoi Gianluigi Donnarumma est ce gardien fantastique sur sa ligne, mais qu'il ne sort jamais dans les duels aériens et qu'il ne domine pas sa surface?
Ah oui, parce que moi, ça, Joseph-Antoine Bell, il m'en a parlé tout à l'heure. Effectivement, il est
comme c'est un sport collectif, il y a 1000 raisons collectives, Annie. Donc ils sont passés au travers, à l'aller et au retour.
Mais toi, moi, c'est les limites. C'est simplement, on a vu les limites du PSG qui n'a pas de marge, qui n'a pas eu de marge toute l'année et qui s'est retrouvé. En fait, ça a marché contre le Barça. J'utilise souvent cette analogie, mais en fait, vous lancez la pièce avec le PSG, parfois ça tombe du bon côté et ouais, parfois ça tombe du mauvais. Bah là, c'est tombé du mauvais, il y a eu de la manque de réussite. Kylian Mbappé a reconnu, il a dit lui-même, quand tu marques pas, c'est quand tu touches le poteau, c'est que t'es pas assez bon pour la mettre au fond. Bah, non, en tout cas, en plus, le club en lui-même n'a pas réussi à gérer cet événement. Dominique parlait, il y a plein de raisons. Et bah voilà, ils sont tombés sur une équipe de Dortmund qui, elle, a répondu présent. En tout cas, Paris a fait une mauvaise double.
Et Carlos Bianchi, la semaine dernière, qui était assis à votre place, Dominique, disait...
C'est de la chance.
Mais attention, et c'était après la qualification à Barcelone qui avait un peu épaté tout le monde, il disait, mais attention, n'oubliez pas que c'était à 11 contre 10. Et quand il a dit ça, c'est vrai qu'on l'avait presque oublié dans l'euphorie un peu de tout ça. Et c'est pour ça, Ibrahima, comment vous le voyez ce que... Alors, je me souviens qu'on a débriefé ensemble, ici, dans la deuxième édition de Radio Foot, la semaine dernière, justement ce premier match, et où vous trouviez que les erreurs étaient beaucoup celles des choix de Luis Enrique. Est-ce que vous pensez encore cela?
Je
Dominique reviens, conduit à ça aussi.
Dominique, oui, mais je suis d'accord parce qu'on avait la sensation que Luis Enrique, il avait trouvé son équipe type avec le système qu'il fallait. Au match aller, il le change pas sur les hommes, mais sur l'animation avec Dembélé qui est à l'intérieur. On dit que personne n'a compris pourquoi. Et il y a eu cette musique de dire pourquoi Kolo Muani et pas Ramos. On a eu l'impression qu'il voulait un peu contenter tout le monde et dire voilà, je vous le montre, il est là, Ramos. Et Ramos, qui n'a pas l'habitude de jouer dans ce système, n'a pas aussi été mis dans de bonnes conditions. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. C'est l'ensemble du PSG qui a raté en finale qu'on voit. On peut critiquer Luis Enrique, on peut critiquer Mbappé, Donnarumma, mais c'est l'ensemble du club. Mm-hmm. Et moi, je vais même peut-être aller plus loin où je pense que le PSG doit savoir c'est quoi sa vraie valeur en tant que club au niveau européen. C'est-à-dire savoir...
Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Quelle est notre place? Mm-hmm. Dortmund est un plus grand club européen que le PSG.
Ah
oui,
bien sûr.
Ah oui, oui. Bah, déjà, ils ont gagné la Ligue des
Champions. Écoutons Luis Enrique, en tout cas, parce que pour lui, eh ben, pas vraiment de critique.
Je pense que si nous analysons les deux matchs, nous n'avons pas été inférieurs. Ce qui est curieux dans le football, c'est que ce sport est parfois très injuste. Nous n'avons pas réussi à marquer une seule fois après 31 tirs sur cette rencontre et 6 poteaux sur les deux matchs. Le football ne récompense que le buteur, pas ceux qui touchent les montants. Je dois donc féliciter l'adversaire parce qu'il a fait un grand match. Ils ont joué un aller et un retour avec beaucoup d'intensité et nous n'avons pas réussi à les vaincre. L'objectif que je me suis fixé en arrivant dans ce club dès le début était d'être compétitif dans toutes les compétitions. Lorsque la saison sera terminée, juste après la finale de la Coupe de France, nous ferons le bilan sur ce que nous avons accompli.
La temporada, es decir, después de la final de Copa, veremos lo que hemos conseguido.
Si, veremos. C'est sûr qu'il faudra voir après la finale de la Coupe de France. Mais Nabil, quand on l'entend, quand il dit « moi, je suis content de mes joueurs sur l'aller comme le retour », alors certes, ils ont rempli peut-être aussi la feuille qu'ils devaient remplir, c'est-à-dire ils ont accompli les ordres.
Bah, je pense qu'il est dans son rôle, mais si vous prenez un peu de recul et de distance, Cédric parlait tout à l'heure d'une Ligue des Champions en deçà des standards habituels, ils sont passés à côté d'une occasion inespérée, tout simplement. Parce que la saison prochaine, s'ils se repointent avec le même niveau et sans Mbappé, je vous le dis dans le plus grand calme, c'est huitième de finale et c'est dehors. Parce que leur parcours, il n'y a pas de marge collective suffisante.
Vous le rappeliez hier, hein, Cédric, beaucoup de défaites en fait. C'était la cinquième.
Ça fait 5 en 12 matchs, c'est beaucoup.
C'est pas une grande équipe, c'est l'histoire d'un parcours avec de la réussite.
Oui, oui.
Carlos Bianchi, il a raison. Je veux dire, le Barça, s'il ne joue pas au C, deux petits points. Si Arujo panique pas, si Arujo ne panique pas, ça s'arrête le tour d'avant.
Oui, et puis Xavi aussi qui perd.
Voilà, et d'ailleurs, une différence majeure j'ai trouvé entre Dortmund et le FC Barcelone, c'est que chez les joueurs allemands, je n'ai senti aucune peur, ni aucune crainte, ni aucune fébrilité Alors que les joueurs de Dortmund,
il est un peu dans la position idéale, hein, celle de Dortmund.
Oui, mais l'aller au retour,
ouais, mais bien sûr, mais classe, humble. Personne ne s'attendait. J'imagine que eux, les questions qu'on leur posait, c'est comment vous allez faire face à Dembélé, Mbappé, la vitesse, tout ça. Et j'imagine qu'ils ont dû répondre pendant une semaine ou pendant trois semaines à des questions. Et puis ils étaient dans la position psychologique de n'avoir rien à perdre.
Kylian Mbappé est très mal noté ce matin dans la presse, vivement critiqué aussi. Lui-même, pourtant, ne se trouvait pas d'excuses hein, après la rencontre. Il était bien conscient de ce qu'il a dû manquer et qu'il aurait dû marquer à votre micro, Cédric.
J'essayais d'aider mon équipe du mieux que je pouvais. C'était pas suffisant. Quand on parle d'efficacité dans les surfaces, je pense être le premier visé. Je suis le gars qui doit marquer les buts, qui doit être décisif. Quand ça se passe, je prends toute la lumière. Quand ça ne marche pas, il faut prendre toute l'ombre aussi. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que le premier qui devait marquer, c'était moi. J'aime pas trop parler de malchance. Quand tu es bon, ça tape pas le poteau, ça va dedans. On n'a pas été assez bon dans ce secteur-là. Donc maintenant, je pense pas que dans le match, tout soit jeté. Mais dans les matchs au coup près comme ça, tu as beaucoup d'opportunités comme ça, tu ne marques pas. C'est trop difficile d'espérer aller au tour d'après.
Cédric, c'était il s'est arrêté pour parler aux médias
il sentait
le poids.
Bah, il sentait le poids en tout cas et c'est quand même une de ses marques de fabrique. Mais il a quand même cette capacité à assumer quand ça ne va pas. Et voilà, là, c'est vrai qu'il a manqué sa double confrontation. Mais je pense que c'est lié aussi à sa saison qui est très bizarre. On parlait du club dans son ensemble qui a mal géré la Ligue des Champions. Il a peut-être mal géré le cas Mbappé aussi. Oui, le joueur a raté et peut-être que d'autres personnes ont mal géré aussi tout son cas, je veux dire.
Dominique, on a la sensation qu'effectivement, ça remonte à bien avant cette demi-finale, aller comme retour. Le cas Mbappé, on l'a vu être mis de côté l'été dernier, pour la tournée en Asie, où finalement, on avait la sensation que les dirigeants voulaient le garder coûte que coûte et donc l'obliger à rester dans le club. Et ça n'a fait que se ternir au fil de la saison.
Oui, non, vous avez raison, Annie, vous êtes gentil de poser la question, mais parce que c'est inaudible en ce moment ce qu'on va dire sur Mbappé. Tout le monde veut qu'on dise que la défaite, c'est lui imputé et lui imputable. Que c'est de sa faute si le Paris Saint-Germain n'est pas allé en finale. Moi, je peux vous le dire, tout le monde sera content, les supporters seront contents. Mais sauf que ça ne marche pas comme ça, c'est un sport collectif. Donc déjà, la responsabilité collective, il a fait un mauvais match à l'aller, un mauvais match au retour. Donc évidemment, il a sa part de responsabilité.
Ça,
mais pour... prendre de la hauteur comme vous m'y invitez, je pense que vous avez raison. Je pense que la gestion de Kylian Mbappé a été mauvaise tout au long de la saison. Si vous pensez qu'il a ce niveau-là des demi-finales, c'est qu'on n'est pas d'accord sur quel joueur on a vu depuis 7 ans au Paris Saint-Germain. Si on pense qu'il a un autre niveau, que c'est un autre joueur, il faut se poser la question pourquoi il a été comme ça. Moi, je pense que c'est pas le joueur qu'on a vu cette semaine. Kylian Mbappé n'est pas le joueur qu'on a vu là. C'est un joueur médiocre, moyen, lambda. Moi, je pense que Mbappé, c'est autre chose. Donc, c'est un très grand joueur qu'on va continuer à le voir l'année prochaine au Real Madrid et en équipe de France.
Mais qu'on n'a pas mis dans les meilleures conditions.
Qu'on n'a pas vu. Donc si on l'a pas vu, c'est qu'il y a une raison. Enfin, je pense que sa gestion par les autorités du club, notamment Nasser Al-Khelaifi, sa gestion a pesé.
Ibrahima, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'ancien joueur?
Moi, je pense que déjà, juste sa déclaration, elle résume tout. C'est-à-dire que le moi du PSG, ça va se transformer en nous au Real. Parce que le Real va savoir comment faire qu'un joueur exceptionnel comme Mbappé soit un joueur de plus, peut-être le plus important, on verra avec Vinicius, mais soit un joueur dans un collectif. Là, c'est lui-même qui le dit, hein. C'est moi qui aurais dû marquer, si c'est de ma faute, c'est... On a tellement donné de pouvoir à Mbappé que lui-même se sent le seul responsable et ça va en profiter à beaucoup. Hein. Ça veut dire que lui va prendre tout ce qui n'est pas bon sur lui et on va pouvoir avoir d'autres problèmes. Et l'année prochaine, on va commencer à vouloir dire « Ah, maintenant, on va construire une équipe. » C'est ce qui va se passer. Maintenant, on va construire une équipe. Maintenant, on est plus soudé parce qu'on n'a pas Mbappé, alors que ça aurait dû être le cas. Ça aurait dû être le cas maintenant d'avoir cet état d'esprit-là sans lui.
En plus, il... oui.
C'est ce qui va se passer, mais au Real, il va l'apprendre ça.
Pour moi, c'est du 50-50. Hein. Le Paris Saint-Germain a sa part de responsabilité quand ils ont su qu'il allait les quitter, parce qu'on ne les quitte pas, c'est eux qui vous congédient. Et l'ego de Luis Enrique est devenu le bras armé du club, et donc il l'a managé comme lui, bon lui semblait. Vos meilleurs joueurs, vous les mettez dans les meilleures conditions, ce qui n'a pas été le cas depuis quelques temps. Et il a aussi
seulement Mbappé, d'ailleurs,
pas seulement
sur le
Mbappé.
Terrain.
Et puis, je pense que lui aussi a sa part de responsabilité. Il a voulu prendre les responsabilités, être le guide de cette équipe. Sur le terrain, il n'a pas répondu suffisamment, tout simplement. Il rend les clés, et puis par ailleurs.
Merci beaucoup d'avoir analysé cette élimination du Paris Saint-Germain. On file vers Marseille parce qu'il y a une flamme qui nous attend.
Une journée exceptionnelle, l'arrivée de la flamme olympique.
Le Belém a commencé sa parade le long des côtes marseillaises, escorté par 1024 embarcations.
Le coup d'envoi donc de 4 mois de fêtes et de célébrations pour ces Jeux Olympiques.
La France s'est enflammée pour la flamme, symbole de l'Olympiade qui débutera à Paris dans 79 jours. La flamme venue d'Olympie, la cité grecque où elle avait été ravivée, elle est désormais sur le sol français. Le symbole vivant a navigué 12 jours sur le magnifique vieux gréement qu'est le Belém majestueux trois mâts, autrefois navire de commerce et aujourd'hui bateau école. Il a accosté en fin de journée dans le port de Marseille. La flamme a débarqué portée par le nageur Florent Manaudou. Demain, elle se promènera dans les rues de la cité phocéenne et le premier porteur matinal de cette flamme sera Basile Boli, l'ancien footballeur et buteur en finale de la Ligue des Champions 1993 avec l'OM. Il nous a raconté la perspective de ce moment exceptionnel et s'est mis en onde par David Finzel.
Premièrement, c'est une fierté, surtout quand on a été sportif de haut niveau. C'est un passage à témoin, surtout pour la jeune génération qui arrive. Même si on n'a jamais été champion olympique, on n'a jamais touché une médaille olympique, mais c'est toujours le sport. Le sport a une vocation à réunir, à partager, et surtout à souffrir aussi des moments, et puis en même temps à faire vibrer bon nombre de personnes. Alors.
Vous êtes quoi ? Vous vous sentez heureux ? Vous vous sentez fier ? Vous vous sentez timide ? Vous vous sentez tremblant ?
Non, plutôt fier, parce qu'en fait, les JO ont marqué une certaine époque, 68, avec les trois athlètes américains. Bien avant ça, Mohamed Ali dans ses débuts, George Foreman. Il y a toujours eu des choses exceptionnelles. Jesse Owens. Quand on voit l'histoire du sport, on se dit il y a des racines et en même temps il y a une évolution du monde et ce qui fait que on est qu'un quoi. Et ce challenge olympique, ben il est plutôt rassembleur pour le monde entier parce que Marseille, ça part de Grèce, ça arrive à Marseille, c'est cosmopolite. Marseille, c'est un métissage énorme. C'est très bien d'en parler en ce moment parce que avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est ce relais olympique qui me donne des frissons quoi.
La flamme. Est-ce que si on la porte, Marseille, c'est quand même une ville de Mistral. Vous avez peur qu'elle s'éteigne?
Non, le vent s'est arrêté un petit peu. Donc, en plus, je vais être le premier à descendre avec à Notre-Dame de la Garde. Non, je pense pas. Non, le vent va se calmer comme il s'est calmé aujourd'hui.
Il n'y a pas de danger, donc.
Non, il n'y a pas de danger.
Basile Boli, il va falloir que vous couriez quand même avec cette flamme en main. Ça veut dire que vous vous êtes entraîné ces jours-ci?
Oh ben, vous inquiétez pas, c'est une descente. Alors je vais pas trop faire d'efforts. Donc il faut justement ça va beaucoup mieux. J'ai les genoux qui tiennent. J'ai perdu quand même une dizaine de kilos depuis un an. Donc je cours encore, etc. Mais c'est le symbole quoi, olympique. Jamais de ma vie j'aurais imaginé ça. J'imagine Mohamed Ali en trembloter avec la flamme olympique. Ce que ça fait et bon moi je suis un sportif en même temps pour moi à Marseille descendre de Notre-Dame de la Garde il y a une connotation un peu intime qui me fait vibrer et qui me donne la chair de poule.
Et oui, tout un symbole de descendre de cette église qui domine la ville de Marseille. Basile Boli, beaucoup de vedettes du Vélodrome vont porter cette flamme demain parmi donc les 188 porteurs. Il y a Jean-Pierre Papin, il y a Didier Drogba, Éric Dimeco et puis vous. Et d'ailleurs, elle passera aussi par le stade Vélodrome. Est-ce que pour vous, il y a un hommage aussi au-delà du symbole des Jeux Olympiques, mais à ce que représente dans la vie sportive de Marseille l'OM.
Ensemble,
c'est le centre de la ville, c'est le centre. Je veux dire que quand on prend le train, par exemple, on arrive à Marseille et que c'est le week-end, on sait si l'OM a gagné ou l'OM a perdu. Voilà. Donc, c'est le centre névralgique de cette ville parce que elle a une histoire. L'OM, c'est quelque chose qui est empêtré dans l'âme des Marseillais. Et ce que les supporters ont fait comme tifo, c'est extraordinaire. J'ai eu la chance de voir ça. Mais on ne peut pas se passer de l'OM quand on vit à Marseille. Donc, Marseille, c'est l'OM. Donc, arriver à Marseille et ne pas écouter tout ce qui se passe autour de l'OM, c'est qu'on est sourd ou qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc, je pense que c'est une reconnaissance et en même temps, c'est une valeur de rassemblement et de partage, quoi, que ce club représente pour cette ville.
C'était donc Basile Boli qui sera le premier demain à courir dans les rues de Marseille avec la flamme olympique. On parlait de Marseille, il parlait de l'OM. Eh bien, restons-y. Rémi Ngono et David Lortolari, vous êtes encore avec moi. Demain, il y a encore une soirée de demi-finale européenne et il y aura encore une deuxième émission de Radio Foot International. Et ça sera l'OM qui ira à Bergame essayer de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa qu'ils avaient disputée déjà en 2018. Ça sera à Bergame face à l'Atalanta, match nul au match aller. Ce qui a redonné l'espoir aux Marseillais, c'est ce but de Chancel Memba. Que pensez-vous des chances de Marseille demain, Rémi ?
Énorme. Si on n'est pas Real, aujourd'hui, le match retour n'est pas une garantie. Rappelez-vous quand même que le Paris Saint-Germain est éliminé à domicile. Rappelez-vous que City est éliminé à domicile. Rappelez-vous donc, depuis un certain temps, on constate que le match à domicile devient même plutôt un véritable piège aujourd'hui.
Depuis donc, pour moi, voilà. À l'extérieur,
donc, pour moi, je crois que Marseille n'ayant pas perdu, Marseille a des armes offensives qui peuvent être très dangereuses pour Bergame. Et surtout que Aubameyang aura à cœur de se venger et il est aussi le meilleur buteur de la compétition. Donc pour moi, je trouve que Marseille peut tenir et j'ai vu Bergame à domicile face à Liverpool. C'était pas une équipe vraiment, comme on peut dire, foudre.
Mais ils avaient 3 buts d'avance. David Lortolari.
Annie, avant le coup d'envoi du match aller, on imagine l'Atalanta supérieure par rapport à ce qu'elle a montré ces dernières saisons, par rapport à ce qu'elle a montré cette année. L'OM a bien brouillé les pistes. Je suis d'accord sur ce point avec Rémi sur le match aller. Néanmoins, Basile Boli l'a rappelé aussi, c'est à Marseille qu'il y a la magie, plus qu'à l'extérieur. L'OM peut renverser des montagnes, mais l'OM à l'extérieur sera, de mon point de vue, objectivement plus faible qu'il a été chez lui avec son public. Donc très difficile quand même pour Marseille contre l'Atalanta en Italie pour ma part.
Nous verrons ça donc demain. Thomas de Saint-Léger, notre envoyé spécial, est déjà sur place et nous le retrouverons demain dans la première édition de Radio Foot International, dans la deuxième, et il y aura retransmission du match. C'est la fin de cette soirée. À la Madrid.
À la Madrid, voilà, on se retrouve. Salut à toi, Xavier Barré. J'espère que tu vas prendre.
Oui, parce qu'il y a quelques petites polémiques autour de la fin du match, mais ça, on y reviendra demain dans Radio Foot International. Soyez au rendez-vous. Merci beaucoup, David Lortolari.
Merci, Annie.
Bonne nuit à tous, à demain.